lieux de l'histoire en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est l'abbaye de Hautecombe, nécropole de la Maison de Savoie. Au nord de Paris, avec ses 70 tombeaux sculptés, la basilique cathédrale de Saint-Denis est la dernière demeure des rois de France. Au bord du lac du Bourget, 42 princes et princesses de Savoie reposent dans l'abbaye royale de Hautecombe. En réalité, le visiteur qui arrive en bateau d'Aix-les-Bains ou du canal de Savière n'a aucune chance de voir une combe. La dénomination Haute-Combe, Haute-Vallée, se réfère à l'ancienne implantation d'un prieuré au début du XIIe siècle dans le massif de la Chambotte, près de Cesset, village situé sur la berge opposée de la nappe d'eau. En chemin vers Rome, Bernard de Clairvaux, promoteur de l'ordre cistercien, conseille aux moines de Sancey de s'installer sur l'autre rive du lac, appelé à cette époque lac de Châtillon. Ce qu'ils font en 1135 avec l'aide d'Amédée III, comte de Savoie. L'abbaye est incorporée à l'ordre de Cîteaux et un ami du futur Saint Bernard, un certain Vivian, en devient le premier abbé. Mais les difficultés à surmonter sont si grandes qu'un seigneur d'Autrive affirme « Votre communauté ne peut plus demeurer longtemps ici. Dès que, par un travail de tous les jours, vous aurez pu faire produire quelques fruits à cette terre stérile, vous les verrez enlevés par vos voisins rapaces. Retournez à Clairvaux et choisissez un autre lieu. » Malgré tout, l'abbé Amédée, le successeur de Vivian, se dévoue sans compter pour assurer la prospérité du couvent. Fabuleux bâtisseur, les moines blancs construisent une grange batelière à deux niveaux, unique en son genre, ouvrage de 36 mètres de long sur 13 de large, permettant à la fois de tirer en cale sèche les bateaux et d'entreposer les denrées transportées à l'étage supérieur dans un vaste grenier. Amédée III mort, durant la seconde croisade, son fils Humbert fort pieux séjourne avec bonheur à l'abbaye de Hautecombe, envers laquelle il se montre très généreux. Grâce aux donations du jeune comte de Savoie, le monastère s'agrandit, s'embellit, une chapelle puis une église de style roman voient le jour, mais cette richesse subite aurait fait dire à Bernard de Clairvaux, au soir de sa vie, « Hautecombe, tu es trop prospère, le jour de ta chute arrivera ». Humbert III prendrait bien l'habit de moine, mais devant assurer sa lignée, il épouse une sœur du comte de Toulouse, laquelle le laisse veuf de bonne heure sans descendance. Déprimé, il effectue des retraites spirituelles à la Grande Chartreuse, à Hautecombe, puis sous la pression de ses vassaux, il se remarie en 1164 avec Anne de Zaringern, d'origine allemande. Ils ont trois filles, mais Anne meurt prématurément et à la demande du comte, sa dépouille mortelle vogue vers Hautecombe, première d'une flottille aux noires couleurs qui mènera sur les eaux du lac alpin des dizaines de princes et de princesses de Savoie, vers leur champ de repos. Anne est enterrée dans le cloître de l'abbaye, aucune sépulture n'étant alors tolérée au sein de l'église abbatiale. Humbert III se recueille souvent sur sa tombe et sans héritier mâle, après de longues tergiversations, il finit par épouser en 1177 Béatrice de Vienne qui lui donne un fils Thomas. Le comte meurt 12 ans plus tard et selon ses volontés, il est inhumé lui aussi dans l'enceinte du cloître de Hautecombe. Thomas Ier possède le charisme et l'énergie qui firent tellement d'effroi son père. Mais fervent dévot, lui aussi, il accorde aux moines de l'abbaye des exemptions fiscales de toutes sortes, des droits sur plusieurs paroisses et sur leurs habitants, fait don des vignes, de terres situées au bord du lac et dans les bauges, interdit même à ses chasseurs et à leurs chiens l'entrée du couvent. Béatrice Marguerite de Genève, son épouse, lui donne une douzaine d'enfants, dont trois fils qui monteront sur le trône de Savoie, tandis qu'une des filles Béatrice, que l'on dit belle et cultivée, sera la mère de quatre reines. Thomas Ier meurt subitement en 1233, près d'Aoste, et sa dépouille reste de l'autre côté des Alpes. Sa femme, en revanche, gît à Hautecombe, où viendront reposer la plupart de leurs enfants. Amédée V confirme en tout point les dispositions prises par Thomas Ier, accorde de nouvelles prérogatives à l'abbaye, qui devient une vraie puissance féodale, arbitre de la vie et de la mort de ses sujets. Amédée V est inhumé à Hautecombe en 1323, comme le sont déjà une quinzaine de membres de la maison de Savoie. Ayant eu connaissance d'un certain relâchement au sein de la communauté, le pape Benoît XII, ancien moine cistercien, décide de réformer l'ordre en l'obligeant à faire œuvre de pauvreté et ne plus consommer de viande, à acquérir une solide formation religieuse, à s'imposer privation et souffrance. C'est également à cette époque que le comte Aymon, doté d'un grand sens pratique, fait construire la chapelle des princes dans laquelle sont rassemblées les dépouilles d'une vingtaine de ses ancêtres. Lui-même et sa femme Yolande, morte en couche, reposent dans ce vaste caveau en forme de T. Le saint lieu est embelli par Giorgio d'Aquila, peintre né à Florence, élève de Giotto, et qui vient de décorer le mur du château de Chambéry, siège de la maison de Savoie. Amédée VI, dit le comte Vert, donne à l'abbaye les fours et les moulins de la capitale savoyarde, et quand la peste l'emporte, en mars 1383, 40 torches accompagnent son cortège funèbre vers Hautecombe, où baron, officier de la cour, ambassadeur des princes d'Italie, prélat, abbé, moine, chevalier, écuyer, page, conseiller, juges, soldats, valets et gens du peuple assistent en masse à ses funérailles. Son fils, Amédée VII, dit le comte Rouge, trouve la mort en 1391 à l'âge de 31 ans, dans un accident de chasse et suivant son désir, il est enterré lui aussi au bord du lac. Une page se tourne. Premier duc de Savoie, Amédée VIII est moins favorable à ses ancêtres, à l'abbaye de Hautecombe, laquelle amorce un lent mais inexorable déclin, aggravé par le régime de la commande. Son administration est assurée par un étranger, tandis que Chambéry cède bientôt sa place à Turin. Dans ces conditions, la nécropole n'accueille plus que les rares défunts. Malgré tout, à la veille de la Révolution, elle abrite une quarantaine de souverains savoyards. Quand débarquent les troupes françaises en novembre 1792, il se trouve que 8 moines qui s'enfuient, le trésor de l'abbaye est fait or argent et confisqué. On descend les cloches, des voisins accourent, volent et pillent des tombeaux de la chapelle et des princes sont ouverts pour en retirer les objets de valeur. Jugés invendables, les bâtiments religieux sont transformés en faïencerie avec l'argile des communes alentour. On fabrique des vases, pots de fleurs, vaisselle, jusqu'en 1804, année au cours de laquelle M. Landoz, propriétaire des lieux, en fait un domaine viticole. Par le traité de Vienne, en 1815, la Savoie est rendue à son ancienne dynastie. Charles-Félix rachète Hautecombe et en confie la restauration à Ernesto Melano, ingénieur italien de renom. Le duc ainsi que sa femme Marie-Christine suivent de près l'avancement des travaux. Et le 6 août 1825, les cercueils des dignitaires savoyards sont transférés en grande pompe dans l'église reconstruite en style gothique fleuri. L'année suivante, la tête sauvée de Béatrice rejoint la nécropole enrichie plus tard de statues, de pleureuses, de bas-reliefs. Selon ses dernières dispositions, Charles-Félix est enterré à Hautecombe en 1831, tout comme Marie-Christine, qui en a terminé la restauration, notamment avec la chapelle Saint-André et la tour du phare. Les bénédictins décident à la fin des années 80 de quitter l'abbaye devenue à leurs yeux trop touristique pour celle de Grand Gobi au sud de Sisteron. La communauté catholique du chemin neuf les remplace. Entre-temps, le dernier roi d'Italie, Humbert II, qui n'a régné que 35 jours en 1946, est inhumé à Hautecombe. Son épouse, Marie-Josée de Belgique, le rejoint sur les bords du lac du Bourget en 2001. Déposé à même le sol, comme c'est la règle pour les princes, son cercueil est enveloppé de 3 drapeaux, belge, italien et savoyard. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.